Semaine Sainte 2025. Semaine Sainte 2025. En direct de l'abbaye bénédictine de Tournailles. Table ronde. Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence. Vous savez qu'à l'occasion de la Semaine Sainte, nous vous proposons un programme spécial et des émissions depuis l'abbaye bénédictine de Tournailles dans les Hautes-Pyrénées. Aujourd'hui, nous vous convions à une table ronde autour de la règle monastique qui prévaut en ce lieu, ce qui va nous amener bien sûr à parler de la règle de Saint-Benoît avec mes deux invités. Et mes deux invités sont le frère François-Marie et le frère Paul, que je salue et remercie de s'être rendu disponible pour évoquer ce sujet et la vie qui est la leur à l'abbaye de Tournailles, selon la règle de Saint-Benoît. Une question personnelle pour commencer et pour faire un peu connaissance avec vous. Depuis combien de temps êtes-vous entré dans l'ordre des bénédictins et à quand remonte votre présence à Tournailles ? Frère François-Marie.
Alors, moi, je suis rentré en 1973. Et en fait, je ne suis pas rentré à Tournailles. Je suis rentré à l'abbaye de Belloc, à côté de Bayonne. Et je suis à Tournailles depuis septembre 2017.
Frère Paul. Bonjour Eric. Donc, frère Paul, je suis arrivé ici il y a 5 ans, bientôt 5 ans. Voilà, donc je crois que c'est en 2019. Le temps passe vite.
Est-ce que vous avez l'un et l'autre, j'imagine que oui, des fonctions précises, des activités précises à l'abbaye ?
Alors pour ma part, pas spécialement, je participe aux activités, à des activités diverses, je participe quand même au travail manuel, donc à la confiserie. Et on fabrique des pâtes de fruits délicieuses, que je recommande,
bien
mais
connu.
Pas pour le vendredi saint. Et ensuite, je suis une formation en théologie.
Alors moi je suis frère François-Marie, donc je suis ce qu'on appelle infirmier, même si c'est pas infirmier diplômé d'État, mais je sais que je m'occupe de la santé des frères, donc essentiellement des plus âgés, mais aussi surveillance de l'état des plus jeunes. Et puis bon, je suis manœuvre à la confiserie quand l'infirmerie me laisse libre.
Je trouve que c'est une belle activité de faire d'excellentes pâtes de fruits. Alors, on va parler maintenant de la règle de Saint-Benoît, telle qu'elle s'applique à Tournailles. Et peut-être qu'avant d'évoquer son esprit, ses thèmes et ses grands principes, il faut peut-être rappeler son origine et ses sources. Alors c'est le frère Paul qui va s'y coller, si je puis dire.
La règle de Saint-Benoît, c'est, comme vous venez de le dire, la règle de Saint-Benoît. Donc on l'attribue à Saint-Benoît. Pour le situer, deux mots quand même historiquement, il a vécu au début du VIe siècle. Il serait né en 480 à peu près. Donc c'est une époque très troublée. Hein. C'est juste après la chute de l'Empire romain. Et Benoît, lui, n'a pas été trop gêné par ce contexte un peu apocalyptique. Il va se retirer au désert, en quelque sorte, pour mener la vie monastique. Mais il part pas de rien. Il va reprendre la tradition des moines, tradition qui remonte déjà au IIIe siècle, disons. Et notamment les pères du désert qui, en Égypte, avaient commencé la vie monastique. Voilà, il va s'appuyer aussi sur diverses règles qui l'ont précédé.
Notamment, je crois, le traité Institution Cénobitique de Cassien.
Voilà, alors Jean Cassien a joué un très grand rôle parce que, bon, on ne sait pas trop d'où il était originaire, mais il a vécu en Égypte auprès des pères du désert qui ont initié la vie monastique et il va reprendre tous les préceptes de ses pères. Et quand il va venir en France, où il va fonder Saint-Victor à Marseille, alors il y a toute une aventure, hein, il va aussi mettre par écrit les enseignements des pères du désert, à travers les institutions cénobitiques et les conférences. Et c'est grâce à lui qu'on a une très bonne connaissance de toute la spiritualité des pères du désert. Et Saint-Benoît s'est beaucoup appuyé sur lui.
Et au départ, Saint-Benoît se retire, alors on a parlé de Cassien, on parle du mont Cassin.
Voilà, alors ce n'est pas lié. Saint-Benoît, il y a toute une histoire, disons que pour simplifier, il va d'abord vivre comme un anachorète, un ermite, et assez vite il va rayonner grâce à son union à Dieu, il va avoir des disciples, il va fonder une première communauté à Subiaco, en Italie. Hein. Alors oui, c'est Benoît de Nursie, donc il est originaire d'Italie, il va rester dans l'ère italienne, qui à l'époque est très fragmentée, parce qu'il y a des barbares, des romains, des byzantins. Bon. Et à un moment, il va devoir partir pour fonder une deuxième abbaye, disons vers 530, au Mont Cassin. Voilà, une abbaye très fameuse, et c'est là qu'il décédera.
Voilà pour tout l'aspect historique et le personnage de saint Benoît. Benoît de Nursie, comme vous l'avez rappelé, de manière générale, quels sont l'esprit et les principes de la règle de Saint-Benoît ? Frère François-Marie.
Les principes et l'esprit, oh. C'est mettre sa vie sous l'éclairage permanent de Dieu. Et pour ça, c'est la vie commune, tous ensemble, avec une journée marquée par la prière, C'est essayer concrètement, matériellement, de faire ce que saint Paul nous dit, prier sans cesse. Et comme on n'y arrive quand même pas trop, j'ai toujours moi une très grande admiration pour certains moines orthodoxes qui sont capables de prier en permanence. Le but, c'est d'arriver à la prière continue. Il faudrait que je sois capable, tout en parlant dans ce micro, que mon cœur continue de prier. Voilà. C'est, en fait, c'est ça, le but de nos vies. Et par la prière, donc, une vie permanente avec Dieu, en Dieu. Alors, on n'y arrive pas. Donc, il faut des moments bien concrets dans la journée. Et c'est vrai que saint Benoît parle, dans la règle, de 7 offices de jour et d'un office de nuit. Il ne parle pas de l'Eucharistie. Elle y était, mais pas de la manière, sûrement, dont nous la vivons à l'heure actuelle, journalière. Il se base aussi donc sur la vie commune, sur le travail manuel en commun qui sera oublié à certains moments et qui provoquera des réformes. L'un des principes de la réforme cistercienne, qui est donc une branche bénédictine, par-delà, c'est que les moines avaient abandonné le travail manuel. Et les cisterciens remettront en honneur ce rôle du travail manuel dans nos vies. J'ai connu un très vieux père abbé qui me disait que autrefois nous avions ce qu'on appelle les frères converts. On avait deux sortes de moines, les moines de cœur qui étaient tous prêtres, qui devaient célébrer tous ces offices, et les moines converts qui faisaient beaucoup de travaux manuels et qui n'étaient pas... J'aime pas le terme, mais c'est le terme utilisé, astreint à l'office. Et ce vieux père abbé me disait, c'était les plus équilibrés des frères. Parce qu'ils arrivaient à unir cette prière continue dans le travail manuel, et c'était une vie très saine. Alors, il y a, je pense, aussi deux autres chapitres très importants dans la règle, qui sont l'obéissance, qui n'est absolument pas une obéissance militaire, qui est totalement différente, et peut-être pour moi le chapitre le plus important, et qui est difficile à notre époque, l'humilité. Il est impossible de vivre notre vie sans obéissance et sans humilité.
Alors je crois qu'il y a aussi un aspect important, c'est la notion de discrétion. Frère Paul.
Oui, vous faites bien de le souligner. Il me semble que saint Benoît me dit même que, alors on traduit différemment, discrétion, parfois discernement, modération, mesure. Saint Benoît dit que c'est la mère des vertus. Et en effet, il ne faut pas, surtout pas prendre la règle comme un règlement rigide où tout est prévu dans le détail. Saint Benoît a fait une quête d'équilibre. Il indique surtout au supérieur, au père abbé, de faire preuve de mesure et donc de discerner. Voilà, il y aura un discernement, on parle de discrétion, ça renvoie un peu à la discrétion, mais voilà, le discernement, l'adaptation, et on voit bien au fil de l'histoire que la règle s'est incarnée de façon différente selon les contextes et peuples, et tout en gardant l'essentiel, voilà. La quête de Dieu.
Vous avez employé un adjectif important, ce n'est pas une règle, contrairement à ce qu'on pourrait croire, rigide. Au contraire, il y a de la souplesse dedans. Saint Benoît ne voulait pas faire peser sur les frères une espèce de joug qui leur rendrait la vie insupportable d'une certaine manière.
Tout à fait. Ce qu'il a dit, il a mis en acte, en quelque sorte, dans sa règle. Et à plusieurs chapitres, il prévoit des choses, mais il dit qu'il faudra peut-être faire autrement. Hein. Par exemple, est-ce qu'il faut donner à chaque moine selon ses besoins? C'est un chapitre, mais il va dire, en fait, il faudra s'adapter, parce que ses besoins ne sont pas les mêmes. Et en même temps, attention, parce qu'il prévoit aussi les pièges. C'est pour quelqu'un de très fin, il dit, attention, pas de favoritisme, cependant. Alors, vous voyez, il y a du jeu, il y a de la souplesse, il y a de l'équilibre. Et c'est ce qui fait là, que cette règle a eu beaucoup de succès depuis 15 siècles.
Est-ce qu'elle s'applique dans toutes les abbayes bénédictines de la même manière? C'est-à-dire, est-ce que la manière dont elle s'applique à Tournai est la même que celle à Roncalcate, à Fontgombault ou à Belloc?
Non, absolument pas. Parce que d'abord, il y a des familles bénédictines différentes. On est regroupé en confédération bénédictine qui comprend... Je ne sais plus, je crois que c'est de l'ordre de la vingtaine de congrégations à travers le monde. Et déjà, à ce niveau-là, chaque congrégation a sa manière de faire. Après ça, bon, beaucoup de congrégations sont nationales, mais nous, la nôtre, Subiaco-Montcassin, est absolument internationale. Et donc, il y a l'importance des provinces. Et c'est vrai que la manière de vivre de la province française est différente de la province hispanique, anglaise. Voilà, il y a plus d'atomes crochus avec la province africaine parce que c'est les monastères français qui ont fondé en Afrique. Et en plus, dans la province, un monastère, c'est une famille. Et donc, chaque famille a sa couleur. J'y pensais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a, dans les horaires de journée maintenant, il y a quand même, en gros, 4 communautés sur 6 en France. On a, en gros, à quelques minutes près, le même horaire. Il y a 2 monastères qui ont un horaire un peu différent. Parce qu'il y a eu, quand il y a eu la réforme, l'aggiornamento après le concile, nous avions, nous, ce qu'on appelle l'office de nuit, c'est-à-dire qu'on se levait à 2h du matin pour 1 heure de prière et on se recouchait. Et à ce moment-là, ben, il y a eu 2 optiques, ceux qui ont décidé de garder ou de mettre un office de nuit très tôt dans la nuit, mais avec une nuit complète, et ceux qui ont décidé, ben, l'office de nuit, on le met la veille au soir. Alors que plutôt traditionnellement, dans l'ordre bénédictin, ceux qui ont une nuit complète, sans coupure, ont plutôt cet office qu'on appelle des vigiles ou des matines, tôt le matin. Voilà. Et à Tournai, on a plutôt choisi le soir.
Alors, on a parlé de la façon dont se rythme la journée d'un moine bénédictin. Vous avez parlé de la prière, vous avez parlé du travail. Mais je crois qu'il y a aussi une grande place donnée à la lecture, et plus particulièrement à ce que saint Benoît appelait la lectio divina, la lecture divine, les textes sacrés.
Oui, tout à fait. Alors, tous les matins, on a un temps imparti à la lectio divina. Donc, lecture divine, le mot peut paraître un peu intimidant. Disons que c'est une lecture priante. Il y a plusieurs figures du moine, mais quand même, dans une tradition ancienne, c'est l'homme au livre. Il passe du temps à lire. Donc, on a le matin, alors nous, on l'a entre l'aude et la messe qu'on a à 9h. Et donc, on va avoir ce temps de méditation et qui est un moment de relation privilégiée avec Dieu. Et c'est très important parce que on entendra la parole de Dieu à d'autres moments, mais c'est un moment où on a plus de temps pour se l'approprier et pour y repenser plus tard dans la journée et pour rester en dialogue avec le Seigneur.
Si on rentre dans le détail de la règle de saint Benoît, il y a 73 chapitres tout de même. Mais en fait, il y a des subdivisions, 8, 9 à peu près, avec des grands thèmes.
C'est un peu difficile à dire. Je dirais que, disons qu'il y a les premiers chapitres, trois premiers, on va dire les chapitres constitutionnels. Ensuite, il va y avoir 4 chapitres qui sont plus spirituels, hein, parce que, comme je vous le disais, c'est le côté on régule, mais en même temps, c'est tout spirituel, hein, c'est tout, ouais, heureusement. Donc, c'est jusqu'au chapitre 7. Et ensuite, il va y avoir plusieurs chapitres, plus d'une dizaine, sur la prière. La prière, en fait, plus l'office divin, là. L'office divin, donc la prière en commun des moines, qui rythme la journée. Et ensuite, il va y avoir un grand nombre de chapitres pour réguler tout le reste de la journée. Et aussi, par exemple, comment on va choisir le supérieur. Enfin, plein d'aspects. Qu'est-ce qu'on va manger? Comment s'organiser? Quand est-ce qu'on travaille? Et voilà. Et donc, ça va s'acheminer. Et à la fin, c'est très intéressant parce qu'il va y avoir quelques chapitres qu'on considère parfois avoir été ajoutés par saint Benoît à la fin de sa vie et qui vont revenir un peu à des dimensions plus spirituelles, notamment le chapitre 72, qui est un peu une conclusion spirituelle de la règle, même s'il y en a 73.
Alors là, vous nous avez décrit à quoi ressemble la vie quotidienne selon la règle de saint Benoît. Et finalement, le modèle, j'ai l'impression, c'est le modèle de la famille. C'est un peu ça?
Oui, saint Benoît est un Romain et il a pris quand même un peu exemple sur ce qu'était la famille romaine à l'époque. Et même si on regarde bien l'architecture, nos monastères avec un cloître, c'est la villa romaine.
Oui, c'est vrai, ça ressemble beaucoup, effectivement.
C'est ça, hein. Bon, ça permet justement de faire la clôture et de tout disposer autour d'un point central. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il nous fait quelque chose qui correspond à son époque. Cette règle, elle a 15 siècles, nous pouvons continuer à la vivre maintenant, mais dans une époque différentes, avec des manières de faire différentes. On parlera ou on parle de la clôture, mais c'est évident que la clôture est beaucoup plus complexe à l'heure actuelle qu'au temps de Saint-Benoît. Là encore, un ancien abbé me disait « Le problème de la clôture est arrivé avec l'entrée du téléphone dans les monastères. » On ne parle pas d'Internet,
oui,
on parle du téléphone. Donc, ça implique aussi que maintenant, avec Internet, c'est très compliqué. Et ce serait simple de dire, on s'en passe. Mais on ne peut pas s'en passer. Je suis infirmier. Beaucoup de choses se passe sur Internet. Un infirmier ne peut pas, à l'heure actuelle, vivre sans Internet. Alors, je ne dis pas le salarié, c'est-à-dire l'économe pour nous, le supérieur qui est en rapport avec un tas d'instances. Donc, ça donne une exigence absolue pour chacun d'entre nous, notre rapport à tous ces moyens. Alors, il y a deux possibilités. Un supérieur qui décrète il y aura Internet que pour certains postes, avec non-accès à tout un tas de choses. Mais est-ce qu'on n'est pas limite avec les lois françaises de la société
et oui.
Sur les sectes? C'est tout ça. Mais il y a aussi un fait, il faut bien se rendre compte, le courriel. Personnellement, j'ai eu une adresse courriel avant l'an 2000 parce que j'étais secrétaire de la Conférence monastique de France.
Et donc,
comment rentrer en contact?
Pas possible de s'en passer.
Voilà. Impossible. Mais je me suis rendu compte en même temps que mes frères de sang, de famille, qui ne m'écrivaient jamais de lettres, eh bien là, j'ai eu des nouvelles. Alors, on ne coupe pas complètement avec nos familles. Voilà. Donc ça va être, je pense, au niveau de la formation, qu'il faudra savoir mettre les distances, les points, parce qu'autrement, notre vie devient impossible. Que veut dire le silence ? Si on ne parle avec personne, mais qu'on a les écouteurs d'Internet toute la journée. Ça nous met à la fois un peu en porte-à-faux avec notre société, mais c'est pour montrer aussi l'exigence essentielle de nos vies. Nous devons vivre avec Dieu, pour Dieu. Si je suis vivant, c'est que Dieu m'a donné la vie. Je peux lui répondre un petit peu.
Peut-être un mot sur cet aspect, la clôture, hein, frère Paul. Comment vous vivez les choses?
Eh bien, écoutez bien.
Apparemment.
Oui. Le moine, c'est quelqu'un qui se retire au désert. Alors, c'est vrai qu'il y aura toujours une question de vigilance. Bon, tu as bien dit, il y a un problème aujourd'hui. Il faut être vigilant avec Internet, etc. Mais après, il faut être cohérent. Je veux dire, si on a été appelé par Dieu, à partir, il y a quand même un aspect de désert. Il y aura une coupure. Alors, on reste en contact avec la famille. On peut avoir des visites. Après, pourquoi on est là? Si on est là pour chercher Dieu dans la vie monastique, c'est une exigence, il faut être cohérent, quoi. Il y a une cohérence à avoir, ça c'est sûr.
Alors là, c'est le vieux qui va parler. Tu es dans l'élan de ta jeunesse. Tu as bien dit, ça fait 4 ans et demi que tu es là. Personnellement, avec 52 ans de recul, je suis quand même obligé de reconnaître que notre vie, à la longue, est difficile. Que toute vie humaine a des passages difficiles et que ce sont justement ces moments de passage difficiles, tout en voulant vivre la cohérence, tu as raison, on a risque de dérapage. Et on sait très bien que ça peut arriver et ça arrive. Il ne faut pas trop rêver non plus. N'empêche que je dis qu'il faut toujours garder un petit grain de l'enthousiasme du noviciat jusqu'au bout de sa vie.
Alors, on y viendra à ces aspects plus personnels sur la manière dont vous vivez la règle de Saint-Benoît à Tournaille. Juste pour terminer cette première partie, en quelques mots, je ne sais pas si c'est possible en quelques mots, mais comment vous qualifieriez la spiritualité de la règle de Saint-Benoît ?
C'est une question difficile. Je crois que Saint Benoît demande à celui qui vient, il vient pour chercher Dieu. Voilà, c'est le point principal. C'est une quête de Dieu et de façon assez radicale. Donc c'est vraiment la recherche de Dieu qui est centrale. Et bien sûr, il y aura toutes sortes d'autres vocations qui vont chercher Dieu. Mais c'est vrai que ce qui spécifie quand même la vie monastique, c'est qu'on en vient un peu à s'isoler. Voilà. On a aussi des frères, on cherchera aussi à travers le prochain. Mais il y a un aspect quand même radical de rappeler radicalement que ce qui donne sens à la vie, c'est Dieu. Sinon, on perd le sens.
Frère François-Marie.
Oui, Dieu premier servi. On est là uniquement pour lui. Si on n'est pas là pour lui, on ne rime à rien, on ne sert à rien. Même si on peut dire, est-ce que ça sert à quelque chose, un moine? En tant que croyant, je dis que oui, on est là quand même pour rappeler que ça vaut le coup de donner toute une vie uniquement à Dieu. Le Christ est mort pour nous. Je ne sais plus où j'ai trouvé cette phrase qui dit « C'est simplement être correct que de donner sa vie pour un crucifié. Il est quand même mort pour nous. » On a une antienne qui dit « Nous t'offrons en fait ce que tu nous as donné. » fait, c'est un retour. Voilà.
Nous allons parler plus précisément en seconde partie d'émission de la façon dont se déroulent vos journées personnelles à Tournail, de la manière dont vous vivez la règle de Saint-Benoît dans vos activités ici. Avant d'y venir, nous allons faire une pause dans notre discussion en écoutant une hymne chantée par les frères de l'abbaye de Tournail. Elle a pour titre « Bientôt l'aurore ».
Bientôt l'aurore.
Semaine Sainte 2025. Table ronde. Éric Dupri.
Après cette pause musicale, nous retrouvons les frères François-Marie et Paul, membres de la communauté bénédictine de l'abbaye de Tournail. Nous avons évoqué tout à l'heure la règle de Saint-Benoît et la manière dont elle s'applique à Tournail. J'en reviens à une question que vous avez déjà abordée, vous avez déjà donné quelques éléments de réponse, mais comment vous la vivez personnellement et à quoi ressemblent vos journées à l'un et à l'autre? Frère Paul.
Ce qui est tout à fait spécifique, enfin ça se retrouve ailleurs dans la vie religieuse, mais Saint Benoît dit ne rien préférer à l'office divin, voilà, donc c'est la chose qu'on doit préférer, donc c'est ce quand même très marquant, c'est qu'on va voir la vie, la journée, la vie aussi, rythmée par des offices au long de la journée, et on va commencer par les laudes, voilà, donc c'est très important parce que du coup beaucoup de gens, ils se lèvent, et le premier truc, ils vont écouter la radio, les mauvaises nouvelles, nous on va commencer par louer Dieu pour ce qu'il y a de bon dans le monde malgré tout. Et ensuite, il y aura d'autres offices dans la journée. Voilà, donc les laudes suivies par la Lectio Divina, donc le temps de prière avec Dieu, plus intime, plus personnel, retiré dans la cellule, suit l'Eucharistie. Et ensuite, il y aura des moments de travail, chacun va vaquer à son emploi. Alors pour moi, ça sera la formation d'abord un peu en théologie que je suis, le matin. Et l'après-midi, ça sera plus le travail manuel. Et après, il y aura, parfois, il reste un peu de temps pour l'étude, pour la prière. Voilà. Et aussi, ce qui est important aussi, c'est que le moine mange aussi, s'alimente aussi de choses matérielles, donc on a les repas en commun, en silence, en écoutant une lecture, c'est important. Et on a cette spécificité de fait qu'avec certaines communautés, on a les vigiles, donc un gros office en fin de journée, à 21h, et qui peut durer une heure, selon, ça dépend de la liturgie.
Frère François-Marie.
Alors, je fais partie de ceux qui ont les emplois qui cassent la journée. Dans le sens où quand je sors de l'ode, eh bien moi je ne peux pas faire l'Lectio Divina. Il faut que je prépare les petits déjeuners des frères de l'infirmerie, il faut que je les lève, que je fasse les toilettes. Donc, à charge pour moi de trouver d'autres moments dans la journée pour... Bon, je suis en infirmerie depuis presque 40 ans. Donc, je fais une chose qui n'est pas conseillée. Et en fait, je me lève beaucoup plus tôt le matin. Et je commence par un long temps d'oraison au Saint-Sacrement. Alors, beaucoup de frères infirmiers, parce qu'on a des sessions annuelles où on se rencontre avec d'autres frères infirmiers, disent non parce que tu te crèves, tu te tues, tu te fatigues trop. Mais si je n'ai pas ça, je ne peux pas tenir. Il faut être bien conscient de la chose. Hein. Nous, en fait, frère Paul parlait des repas, bien sûr on mange, mais si on n'a pas la prière, on est mort en fait. Sans la prière, sans notre vie avec Dieu, nous sommes morts. Le corps avance, bouge, mais c'est des robots. Nous ne sommes plus enfants de Dieu. Alors, il y a ça, et puis, Lectio Divina, ben, j'essaye de trouver d'autres moments dans la journée. Parce que c'est sûr que la prière personnelle, ben, c'est... Donc, il y a l'office, la partie principale, mais l'office seul ne peut pas suffire. Il faut qu'on ait notre vie à côté. Je dis toujours que à côté de l'horaire communautaire, chaque frère a son horaire. Trouve le moment où il fait oraison, trouve le moment pour un certain nombre de dire le chapelet, de lire, de... Voilà. Il faut intégrer ça dans l'ensemble. Alors, on est plus ou moins costaud, on est plus ou moins solide, donc on peut jouer plus ou moins, ben voilà, sur le temps de sommeil, sur le...
Alors cet équilibre à trouver, parce que je pense c'est que c'est ça, le terme qu'il faut ça. Employer, équilibre, entre les moments de silence, le travail, la vie commune, les moments plus solitaires, les moments de lecture, est-ce qu'il est toujours fragile en fait, pour chacun d'entre vous? C'est à chacun de le trouver bien sûr, selon sa propre nature et ses attentes.
Bien sûr, il est fragile. Et
c'est-à-dire que ça n'est jamais gagné.
C'est une quête, hein, voilà, c'est aussi une quête. Lui, c'est l'infirmerie. Moi, j'avoue que c'est depuis que j'ai une formation quand même, jusqu'où s'investir, parce qu'on a, on va avoir le travail manuel, les offices, tout ça. Et comment équilibrer, ce n'est pas facile. Bon, on s'en sort, on est toujours vivant.
Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous et qu'est-ce que vous appréciez le plus dans votre vie ici, à Tournai, dans vos journées?
Je suis vraiment incapable de répondre à la question qu'est-ce qui est le plus difficile. Non, là, franchement, je vois pas. Et la deuxième question, c'est...
Qu'est-ce que vous appréciez le plus?
Ben, la vie, l'ensemble de la vie. 52 ans cette année, donc je suis en vie monastique. C'est l'ensemble, l'ensemble. Et puis j'ai quand même une expérience qui fait que j'ai fait deux monastères en France et j'ai été aussi un temps dans un monastère, une fondation en Afrique. C'est cet alliage des temps de prière, de travail manuel, de vie fraternelle. Alors c'est sûr qu'on nous dit, mais vous êtes loin de tout le monde, comment vous pouvez pratiquer la charité? Croyez-moi, la charité est peut-être plus difficile dans un petit groupe d'hommes où on est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt sur place. Là encore, je vais parler un peu de l'infirmerie en disant, quand on nous dit « Oh, c'est simple quand même ce que vous avez, les infirmières le font bien », l'énorme différence, c'est que nous, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours. Il n'y a pas de vacances, il n'y a pas d'échappatoire. On est vraiment les uns avec les autres. Et c'est peut-être encore plus difficile à notre époque où nous avons de petites communautés. Dans une grande communauté, on peut toujours arriver à... Bon, je ne m'entends pas avec un frère, je vais l'éviter, c'est tout simple. Une petite, on ne peut pas. On est là, toujours ensemble.
Oui, c'est comme dans un village où tout le monde se connaît et on est obligé de se croiser.
Mais malheureusement, je dis bien malheureusement, au bout de quelques années, on sait très bien ce qu'un frère va dire avant qu'il ouvre la bouche.
Oui, oui, oui. Mais vous avez finalement répondu à la première question. Frère Paul ?
Le plus difficile, je ne saurais pas dire, franchement. Il y a des choses difficiles, des petites croix, je dirais, mais c'est normal, ça fait partie de la vie. Et heureusement qu'il y en a aussi dans la vie monastique, ce n'est pas une planque. Et donc c'est la suite du Christ. Et donc il y a cet aspect quand même, il va falloir se renier soi-même, demande-t-il de façon très exigeante. Hein. Donc il y a des croix et ça fait partie de la vie. Et on est armé aussi pour y faire face, justement. Et pour ce qu'il y a de mieux, je dirais de façon un peu générale, je dirais, c'est qu'il y a quand même, dans le propos de la vie monastique, on se retire au désert. Bon, certains diront pour lutter contre les tentations. Je ne suis peut-être pas assez combattant. Je dirais la vie contemplative, c'est-à-dire que il me semble quand même, j'espère, en tout cas je suis encore là, je pensais un peu ça aussi, qu'il y a quand même un rayon de la lumière de Dieu qui nous parvient, pas forcément tous les jours, mais à travers la contemplation de la nature, la contemplation de la parole de Dieu, la liturgie, et aussi les frères, même si parfois c'est pas facile, mais aussi dans la rencontre avec le frère.
Alors, vous avez abordé un sujet que je voulais aborder plus tard dans la discussion, mais l'aspect de la contemplation. Vous êtes dans un lieu que je découvre aujourd'hui, moi pour ma part, et que beaucoup de nos auditeurs ne connaissent sans doute pas, mais qui est magnifique, entouré d'une très belle nature, des arbres magnifiques, sans doute des oiseaux, des animaux. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous permet aussi de trouver de l'apaisement parfois, et aussi ben, le fait de contempler la beauté du monde, la beauté de la création, ça doit faire du bien.
Oui, alors... Pour moi, beaucoup. Je dois avouer que j'ai dû vivre en ville hein, pour les études, naturellement. Mais je suis quand même d'origine campagnarde, de famille de paysanne. Et du coup, oui, c'est très important. Dieu se donne par la nature, à travers la beauté de la nature. C'est une beauté qui a été, bien sûr, façonnée, aménagée par l'homme, mais qui quand même vient d'ailleurs, vient de Dieu.
Frère François-Marie.
D'abord, moi, au démarrage, j'ai des difficultés avec le mot « contemplation ». Dans le sens où c'est trop pour moi. La contemplation, pour moi, c'est toujours... C'est Dieu. Contempler Dieu. Donc c'est, pour moi, quasiment inaccessible. Ça sera que dans l'éternité, quand nous le verrons. En attendant, je balbutie. Alors la nature, j'aime beaucoup. J'ai toujours au fond de ma tête la célèbre phrase du bienheureux frère Luc de Tibirine, qui, dans des moments de difficulté, je disais « je vais partir ». Et puis il se mettait à une fenêtre, il regardait la chaîne de l'Atlas, et il disait « on attendra demain pour partir ». Et il n'est jamais parti, sauf au ciel. Mais, alors c'est sûr que la nature, quand on a les montagnes, et quand on va marcher en montagne, c'est extraordinaire. Voilà, mais c'est un terme pour moi qui est trop grand pour moi.
Contemplation, mais on peut dire aussi admiration, tout simplement, des beautés de la création.
Oui.
Ça peut être ça.
C'est un peu plus fade, admiration.
C'est vrai, c'est vrai, je reconnais. Est-ce que vous souffrez parfois de la solitude, ou tout du moins d'un manque d'interaction sociale, ou au contraire, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, frère François-Marie, d'un trop-plein d'interaction sociale à certains moments ?
Personnellement, non. Je suis au monastère pour le bon Dieu. Et j'ai eu une phrase un jour un peu raide en disant... Je ne suis pas rentré au monastère pour me faire un carnet d'adresses. Alors, ce qui fait que, ben, je n'ai, à part ma famille, je n'ai aucune visite. Voilà. Alors, c'est vrai, c'est un isolement, mais je n'y suis pas malheureux. Je suis là pour ça, moi. Et j'ai toujours pensé que, justement, dans ces moments d'oraison, tôt le matin, dans la nuit, je ne suis pas seul. Le monde est avec moi. Ayant vécu 7 ans dans un pays pauvre d'Afrique en brousse, avec aucun moyen du monde moderne, je ne peux pas vivre comme un occidental qui a tout. Je ne peux pas m'empêcher de penser à eux. Je suis obligé de dire que dans les journaux, on parle de la guerre en Ukraine, on parle, mais il y a des tas de choses qui se passent en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, dont on ne parle pas. Et en fait, eh ben, on est d'une certaine manière en communication avec eux. Le moine n'est jamais là pour lui tout seul.
Frère Paul.
Alors non, alors comme il a dit, je suis là depuis un certain nombre d'années, mais évidemment, il y a des gens qui peuvent avoir des nuits de la foi, des moments très difficiles. On n'est pas isolé, on n'est même pas des chartreux, on est des bénédictins, donc c'est une solitude habitée, comme je l'ai dit, on est en dialogue avec la parole de Dieu. Donc non, la solitude me fait pas souffrir, non, ça se passe bien. Et en retour, il peut y avoir, au contraire, comme il a dit tout à l'heure, avec la forte promiscuité avec les frères, qu'on connaît assez rapidement, pas par cœur, mais et avec ce danger de ne plus voir l'autre comme un mystère, au sens paulinien, qui se révèle et en même temps qui m'échappera toujours, en partie. Et voilà, donc ça c'est un danger. Et je crois qu'on peut citer le mot d'Evagre le Pontique, un mot fameux, donc un père du désert qui disait « Le moine est celui qui se sépare de tous pour être uni à tous ». On est dans un objectif de communion, voilà.
Oui, il y a une chose à laquelle, en fait, on n'est jamais seul. C'est une énorme différence avec les prêtres de paroisse qui se retrouvent ou le dimanche après-midi ou le soir tout seuls. Nous, en fait, on a toujours les frères. Parfois, ils sont insupportables, mais parfois, c'est nous qui sommes insupportables. Donc, en fait, je crois que, oui, il y a solitude, parce que l'autre sera toujours un inconnu. Mais, non, nous, on a une grâce inouïe. On n'est jamais seul, en fait.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le lieu, parmi nos auditeurs, ils sont à l'abbaye les lieux communautaires et les lieux de silence.
Alors, en fait, les lieux communautaires sont souvent des lieux de silence. Ça dépend, s'il y a une articulation un peu compliquée. Disons qu'il y a des lieux où le silence va être plus indiqué, notamment à l'oratoire, à l'église, à la chapelle, au réfectoire aussi, et dans le cloître. Voilà. Donc, c'est des lieux qui sont plus indiqués pour le silence. Voilà. Et après, on va avoir à Tournai, on a des chapitres. Alors, s'il y a les chapitres de commentaires de la règle, où on écoute en silence, mais on a deux ou trois fois par semaine un chapitre commun où là on va pouvoir plus échanger. On prend aussi le café le dimanche et puis parfois au travail il va y avoir des occasions, ne serait-ce que pour des raisons pratiques à l'infirmerie. Voilà, il faut échanger. Voilà.
Si on ne parle pas à l'infirmerie, il faut un vétérinaire, pas un infirmier. c'est la parole de fonction. Là on ne peut pas l'éviter. Mais sur le silence, je crois qu'il faut vraiment y insister. C'est très, très important pour nous. Et moi, j'ai deux principes. Ne jamais être celui qui commence à parler. Et tout en restant poli, ne jamais relancer une discussion. Si tout le monde applique ces deux choses-là, je crois que le silence devient relativement facile.
Pour terminer, une question là encore très personnelle à tous les deux, et je pense que vous allez y donner des réponses sans doute différentes. En quoi la règle de Saint-Benoît et la vie telle qu'elle s'organise à Tournai vous ont fait grandir dans votre foi? Qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez découvert sur vous-même et sur Dieu depuis que vous vivez à l'abbaye?
Alors en quoi ça m'a fait grandir dans la foi? Par maints aspects, mais je dirais que c'est surtout voilà, ce contact quotidien assez intense, on ne l'a pas dit aussi, mais aussi à travers la prière des psaumes, avec la parole de Dieu. Voilà, donc Dieu s'est fait connaître à nous par une parole, et cette règle nous donne le moyen de suivre le Christ aussi concrètement dans le quotidien, pas seulement de façon abstraite. Voilà, à la fin du chapitre 72, qui est un peu la conclusion spirituelle pour moi, hein, Saint Benoît dit, voilà, ils ne donneront à rien la préférence sur le Christ. Ce qui est aussi dit dans le chapitre 4, hein, ne rien préférer à l'amour du Christ, lequel nous conduira à la vie éternelle.
Frère François-Marie.
Je dirais que je suis quand même rentré jeune au monastère, donc je suis devenu homme au monastère. Hein. Et donc, c'est vraiment la vie monastique qui m'a constitué, qui m'a formé, qui m'a... Quand on rentre, on a une foi de catéchisme. Et donc, en fait, on apprend. Vous voyez, frère Paul a fait des études de théologie. Moi, j'ai eu quelques cours pendant le noviciat et après le noviciat. Bon, puis j'étais très vite mis au plein travail manuel. Mais... oui, c'est la vie monastique qui m'a faite.
Les cloches sonnent, sans doute pour m'indiquer qu'il faut conclure cette émission. Merci infiniment, frère François-Marie et frère Paul, de vous être prêtés de très bonne grâce à cet échange que j'ai trouvé passionnant autour de la règle de Saint-Benoît et de votre vie quotidienne à l'abbaye de Tournai. Nos programmes consacrés à la Semaine Sainte, ici à Tournai, se poursuivent. Restez bien à l'écoute de Radio Présence et bon week-end de Pâques à tous.